Le bazar aux nouvelles. Petite histoire, poème.
C'est-à-dire ?
Conte, récit.
C'est à ouïr.
Le bazar aux nouvelles. Des mots d'auteur. Des voix d'amateur. Des oreilles d'auditeur. Soyez toutes oui, non ?
Non.
Aujourd'hui, lecture de trois nouvelles de Dino Buzzati.
Tirées de son recueil Le Cas.
Conte fantastique où l'on retrouve tous les thèmes familiers de l'auteur.
La fuite des jours.
La fatalité de notre condition de mortel.
L'angoisse du néant.
L'échec de toute vie.
Le mystère de la souffrance et du mal.
Mais maintenant, place à Dino Buzzati.
Alors, soyez toutes oui.
Non ?
Oui. Le Cas.
Quand Stéphano Roy eut 12 ans, il demanda comme cadeau à son père, qui était capitaine au long cours et maître d'un beau voilier, de l'emmener à bord avec lui.
« Quand je serai grand, dit-il, je vais aller sur la mer comme toi, et je commanderai des navires encore plus beaux et encore plus gros que le tien. »«
Dieu te bénisse, mon petit, répondit le père. »
Et comme son bâtiment devait justement appareiller ce jour-là, il emmena le garçon à bord avec lui.
C'était une journée splendide, ensoleillée, et la mer était calme.
Stéphano, qui n'était jamais monté sur le bateau, courait tout heureux sur le pont, admirant les manœuvres compliquées des voiles. Et il posait de multiples questions au marin qui, en souriant, lui donnait toutes les explications souhaitables.
Arrivé à la poupe, le garçon s'arrêta, intrigué, pour observer quelque chose qui émergeait par intermittence à 200-300 mètres environ dans le sillage du navire.
Bien que le bâtiment courût déjà à belle allure, porté par une brise favorable, cette chose gardait toujours le même écart.
Et bien qu'il n'en comprît pas la nature, il y avait en elle un je ne sais quoi d'indéfinissable qui fascinait intensément l'enfant.
Le père, qui ne voyait plus Stéphano et l'avait ailé sans succès, descendit de sa passerelle de commandant pour se mettre à sa recherche.
« Stéphano, qu'est-ce que tu fais planté là ? Lui demanda-t-il en l'apercevant finalement à la poupe, debout, en train de fixer les vagues.
« Papa, viens voir !»
Le père vint et regarda lui aussi dans la direction que lui indiquait le garçon. Mais il ne vit rien du tout.
« Il y a une chose noire qui se monte de temps en temps dans le sillage, » dit l'enfant, « et qui nous suit !»«
J'ai beau avoir 40 ans, » dit le père, « je crois que j'ai encore de bons yeux, mais je ne remarque absolument rien. »
Comme son fils insistait, il alla prendre sa longue vue et scruta la surface de la mer en direction du sillage.
Stéphano le vit pâlir.
« Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu fais cette figure-là, dit papa ?»«
Oh, si seulement je ne t'avais pas écouté !» s'écria le capitaine. « Je vais me faire bien du souci pour toi maintenant. Ce que tu vois émerger de l'eau et qui nous suit n'est pas une chose, mais bel et bien un cas. » Ah, oh, c'est le monstre que craignent tous les navigateurs de toutes les mers. C'est un squale effrayant et mystérieux, plus astucieux que l'homme. Pour des raisons que personne ne connaîtra peut-être jamais, il choisit sa victime et une fois qu'il l'a choisie, il la suit pendant des années et des années, toute la vie s'il le faut, jusqu'au moment où il réussit à la dévorer. Et le plus étrange, c'est que personne n'a jamais pu l'apercevoir. Si ce n'est la future victime ou quelqu'un de sa famille.
C'est une blague que tu me racontes, papa.
Non, non. Et je n'avais encore jamais vu ce monstre. Mais d'après les descriptions que j'ai si souvent entendues, je l'ai immédiatement identifié. Ah, ce mufle de bison. Cette gueule qui ne fait que s'ouvrir et se fermer spasmodiquement. Ces dents terribles. Ah, Stéphano, il n'y a plus de doute possible, hélas. Le cas a jeté son dévolu sur toi, et tant que tu seras en mer, il ne te laissera pas un instant de répit. Écoute-moi bien, mon petit. Nous allons immédiatement retourner au port. Tu débarqueras, et tu ne t'aventureras plus jamais au-delà du rivage, pour quelque raison que ce soit. Tu dois me le promettre. Le métier de marin n'est pas fait pour toi, mon fils. Il faut te résigner. À terre aussi, tu pourrais faire fortune. »
Ceci dit, il commanda immédiatement au navire de faire demi-tour, rentra au port et, sous le prétexte d'une maladie subite, fit débarquer son fils. Puis il repartit sans lui.
Profondément troublé, l'enfant resta sur la grève jusqu'à ce que la corne du plus haut mât eût disparu à l'horizon. À distance, il apercevait un petit point noir qui affleurait de temps en temps.
C'était son cas, qui croissait lentement, de long en large, et qui l'attendait avec obstination.
À partir de ce moment, tous les moyens furent bons pour combattre l'attirance que le garçon éprouvait pour la mère.
Le père l'envoya étudier dans une ville à l'intérieur des terres, à des centaines de kilomètres de là.
Et pendant quelque temps, Stefano, distrait par ce nouveau milieu, ne pensa plus aux monstres marins.
Toutefois, aux grandes vacances, il revint à la maison et il ne put s'empêcher, dès qu'il eut une minute de libre, de courir à l'extrémité de la jetée pour une sorte de vérification qu'il jugeait superflue et dans le fond ridicule.
Après si longtemps, le cas, en admettant que l'histoire racontée par son père fût vraie, avait certainement renoncé à l'attaque.
Mais Stefano resta médusé, le cœur battant la chamade.
À 200-300 mètres du môle, en haute mer, le sinistre animal croisait lentement, sortant la tête de l'eau de temps à autre et regardant vers le rivage comme pour voir si Stefano venait enfin.
C'est alors que la pensée de cette créature hostile qui l'attendait jour et nuit devint pour Stefano une obsession secrète.
Dans la cité lointaine, il lui arrivait maintenant de se réveiller en pleine nuit avec inquiétude.
Il était en lieu sûr, oui, des centaines et des centaines de kilomètres le séparaient du cas.
Et pourtant, il savait qu'au-delà des montagnes, au-delà des bois, au-delà des plaines, le squale continuait à l'attendre.
Et même s'il était allé vivre sur le continent le plus lointain, le cas l'aurait guetté du lagon le plus proche, avec cette obstination inexorable des instruments du destin.
Stefano, qui était un garçon sérieux et ambitieux, continua ses études avec profit et, arrivé à l'âge d'homme, il trouva un emploi bien rémunéré dans une importante entreprise de la ville.
Entre-temps, son père était venu à mourir de maladie et le magnifique voilier fut vendu par la veuve.
Le fils se trouva alors à la tête d'une coquette fortune. Le travail, les amitiés, les amusements, les premiers amours.
La vie de Stefano était désormais toute tracée. Néanmoins, le souvenir du cas le tourmentait comme un mirage à la fois funeste et fascinant. Et à fur et à mesure que les jours passaient, au lieu de s'estomper, il semblait s'intensifier.
Les satisfactions que l'on tire d'une existence laborieuse, aisée et tranquille sont grandes, certes. Mais l'attraction de l'abîme est encore supérieure.
Stefano avait à peine 22 ans lorsque, ayant dit adieu à ses amis de la ville et quitté son emploi, il revint dans sa ville natale et annonça à sa mère son intention de faire le même métier que son père.
La brave femme, à qui Stefano n'avait jamais soufflé mot du mystérieux squale, accueillit sa décision avec joie.
Le fait que son fils eût abandonné la mer pour la ville lui avait toujours semblé, dans le fond de son cœur, une espèce de désertion des traditions familiales.
Et Stefano commença à naviguer, témoignant de qualités maritimes, de résistance à la fatigue, d'intrépidité.
Il bourlinguait, bourlinguait sans trêve, et dans le sillage de son bateau, jour et nuit, par bonasse ou par gros grain, il traînait derrière lui le cas.
C'était là sa malédiction et sa condamnation, il le savait. Mais justement pour cette raison, peut-être, il ne trouvait pas la force de s'en détacher. Et personne à bord n'apercevait le monstre, si ce n'est lui.
« Est-ce que vous ne voyez rien de ce côté-là ? »
demandait-il parfois à ses compagnons en indiquant le sillage.
« Non, nous ne voyons absolument rien. Pourquoi ?»«
Je sais pas, il me semblait... »«
Tu n'aurais pas vu un cas par hasard ?» ricanaient les autres en touchant du fer.
« Pourquoi riez-vous ? Pourquoi touchez-vous du fer ?»«
Parce que le cas est une bête qui ne pardonne pas. Et si jamais elle se mettait à suivre le navire, cela voudrait dire que l'un de nous est perdu. »
Mais Stefano ne réfléchissait pas.
La menace continuelle qui le talonnait paraissait même décupler sa volonté, sa passion pour la mer son ardeur dans les heures de péril et de combat.
Avec l'héritage que lui avait laissé son père, lorsqu'il sentit qu'il possédait bien son métier, il acheta de moitié avec un associé un petit caboteur. Puis, il en fut bientôt le seul patron et par la suite, grâce à une série d'expéditions chanceuses, il put acheter un vrai cargo, visant toujours plus ambitieusement de l'avant.
Mais les succès et les millions n'arrivaient pas à chasser de son esprit cette obsession continuelle. Et il ne songea pas une seconde à vendre le bateau et à cesser de naviguer pour se lancer dans d'autres entreprises.
Naviguer, naviguer, c'était son unique pensée.
À peine avait-il touché terre dans quelques ports, après de longs mois de mer, que l'impatience le poussait à repartir.
Il savait que le cas l'attendait au large et que le cas était synonyme de désastre. Rien à faire. Une impulsion irrépressible l'attirait sans trêve d'un océan à un autre.
Jusqu'au jour où, soudain, Stefano prit conscience qu'il était devenu vieux, très vieux. Et personne de son entourage ne pouvait s'expliquer pourquoi, riche comme il l'était, il n'abandonnait pas enfin cette damnée existence de marin.
Vieux et amèrement malheureux, parce qu'il avait usé son existence entière dans cette fuite insensée à travers les mers pour fuir son ennemi.
Mais la tentation de l'abîme avait été plus forte pour lui que les joies d'une vie aisée et tranquille.
Et, un soir, tandis que son magnifique navire était ancré au large du port où il était né, il sentit sa fin prochaine.
Alors, il appela le capitaine, en qui il avait une totale confiance, et lui enjoignit de ne pas s'opposer à ce qu'il allait tenter.
L'autre, sur l'honneur promis.
Ayant obtenu cette assurance, Stefano révéla alors au capitaine qui l'écoutait bouche bée l'histoire du cas qui avait continué de le suivre pendant presque 50 ans, inutilement.
« Il m'a escorté d'un bout à l'autre du monde, » dit-il, « avec une fidélité que même les plus nobles amis n'auraient pas témoigné. Maintenant, je suis sur le point de mourir. Lui aussi doit être terriblement vieux et fatigué. Je ne peux pas tromper son attente. »
Ayant dit, il prit congé, fit descendre une chaloupe à la mer et s'y installa après s'être fait remettre un harpon.
« Maintenant, je vais aller à sa rencontre, » annonça-t-il. « Il est juste que je ne le déçoive pas, mais je lutterai de toutes mes dernières forces. »
À coups de rame, il s'éloigna.
Les officiers et les matelots le virent disparaître là-bas, sur la mer placide, dans les ombres de la nuit. Au ciel, il y avait un croissant de lune.
Il n'eut pas à ramer longtemps. Tout à coup, le mufle hideux du cas émergea contre la barque.
« Je me suis décidé à venir à toi, » dit Stefano. « Et maintenant, à nous deux !» Alors, rassemblant ses dernières forces, il brandit le harpon pour frapper.
« Ouh !»
mugit d'une voix suppliante le cas. « Quel long chemin j'ai dû parcourir pour te trouver. Moi aussi, je suis recru de fatigue. Ce que tu as pu me faire nager. Et toi, qui fuyais, dire que tu n'as jamais rien compris. »«
Compris quoi ?» fit Stefano piqué.
« Compris que je ne te pourchassais pas autour de la terre pour te dévorer comme tu le pensais. Le roi des mers m'avait seulement chargé de te remettre ceci. »
Et le squale tira la langue, présentant au vieux marin une petite sphère phosphorescente.
Stefano la prit entre ses doigts et l'examina.
C'était une perle d'une taille phénoménale, et il reconnut alors la fameuse perle de la mer, qui donne à celui qui la possède fortune, puissance, amour et paix de l'âme.
Mais il était trop tard désormais.
« Hélas !» dit-il en hochant la tête tristement. « Quelle pitié ! J'ai seulement réussi à gâcher mon existence et la tienne !»«
Adieu, mon pauvre homme !» répondit le cas.
Et il plongea à jamais dans les eaux noires.
2 mois plus tard, poussé par le ressac, une petite chaloupe s'échoua sur un écueil abrupt.
Elle fut aperçue par quelques pêcheurs qui, intrigués, s'en approchèrent. Dans la barque, un squelette blanchi était assis.
Entre ses phalanges minces, il serrait un petit galet arrondi.
« Le cas est un poisson de très grande taille, affreux à voir et extrêmement rare. »
Selon les mers et les riverains, il est indifféremment appelé colombert, Calombra, Calonga, Calubalu, Chalongra.
Les naturalistes, fait étrange, l'ignorent.
Quelques-uns même soutiennent qu'il n'existe pas.
Le bazar aux nouvelles.
Douce nuit.
Elle eut dans son sommeil un faible gémissement.
À la tête de l'autre lit, assis sur le divan, il lisait à la lumière concentrée d'une petite lampe. Il leva les yeux.
Elle eut un léger frémissement, secoua la tête, comme pour se libérer de quelque chose, ouvrit les paupières et fixa l'homme avec une expression de stupeur, comme si elle le voyait pour la première fois. Et puis, elle eut un léger sourire.
« Qu'y a-t-il, chérie ?»«
Rien. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens une espèce d'angoisse, d'inquiétude.
Oh, »« Tu es fatiguée du voyage. Chaque fois, c'est la même chose. Et puis, tu as un peu de fièvre. Bon, ne t'inquiète pas. Demain, ce sera passé. »
Elle se tut pendant quelques secondes en le fixant toujours les yeux grands ouverts.
Pour eux qui venaient de la ville, le silence de la vieille maison de campagne était vraiment exagéré.
Un tel bloc hermétique de silence qui semblait qu'une attente y fût cachée, comme si les murs, les poutres, les meubles, tout retenait leur respiration.
Et puis elle dit paisible.
« Carlos, il y a quelqu'un dans le jardin ?»«
Dans le jardin ?»«
Carlos, je t'en prie, puisque tu es encore debout, est-ce que tu ne voudrais pas jeter un coup d'œil dehors ? J'ai comme la sensation que... »«
Qu'il y a quelqu'un ? Quelle idée ! Qui veux-tu qu'il y ait dans le jardin en ce moment ?» Les voleurs ? Et il rit. Ils ont mieux à faire, les voleurs, que de venir rôder autour des vieilles bicottes comme celle-ci.
Oh, je t'en prie, Carlos. Va jeter un coup d'œil.
Il se leva, ouvrit la fenêtre et les volets, regarda dehors, resta stupéfait.
Il y avait eu de l'orage l'après-midi. Et maintenant, dans une atmosphère d'une incroyable pureté, la lune, sur son déclin, éclairait de façon extraordinaire le jardin, immobile. Désert et silencieux, parce que les grillons et les grenouilles faisaient justement partie du silence.
C'était un jardin très simple. Une pelouse bien plane avec une petite allée aux cailloux blancs qui formait un cercle et rayonnait dans différentes directions. Sur les côtés seulement, il y avait une bordure de fleurs.
Mais c'était quand même le jardin de son enfance, un morceau douloureux de sa vie, un symbole de félicité perdue. Et toujours, dans les nuits de lune, il semblait lui parler des allusions passionnées et indéchiffrables.
Au levant, à contre-jour et sombre par conséquent, se dressait une barrière de charme taillée en arche. Au sud, une haie basse de buis. Au nord, l'escalier qui menait au potager, au couchant de la maison.
Tout reposait, de cette façon inspirée et merveilleuse, sur laquelle la nature dort sous la lune et que personne n'est jamais parvenu à expliquer.
Cependant, comme toujours, le spectacle de cette beauté expressive qu'on peut contempler, bien sûr, mais qu'on ne pourra jamais faire sienne, lui inspirait un découragement profond.
« Carlos !» appela Maria de son lit, inquiète en voyant qu'il restait immobile à regarder. « Qui est là ?»
Il referma la fenêtre, laissant les volets ouverts.
Et il se retourna.
« Personne, ma chérie. Il y a une lune formidable. Oh, je n'ai jamais vu une semblable paix. »
Il reprit son livre et retourna s'asseoir sur le divan.
Il était 11h10.
À ce moment précis, à l'extrémité sud-est du jardin, dans l'ombre projetée par les charmes, le couvercle d'une trappe dissimulée dans l'herbe commença à se soulever doucement. Par à-coup, se déplaçant de côté et libérant l'ouverture d'une étroite galerie qui se perdait sous terre.
D'un bond, un être trapu et noirâtre en déboucha et se mit à courir frénétiquement en zigzag.
Suspendu à une tige, un bébé sauterelle reposait heureux. Son tendre abdomen vert palpitait gracieusement au rythme de sa respiration.
Les crochets de l'araignée noire se plongèrent avec rage dans le thorax et le déchirèrent.
Le petit corps se contorsionna, détendant ses longues pattes postérieures une seule fois.
Déjà, les horribles crocs avaient arraché la tête et maintenant, ils fouillaient dans le ventre.
Des morsures jaillit le suc abdominal, que l'assassin se mit à lécher avidement.
Tout à la volupté démoniaque de son repas, il n'aperçut pas à temps une gigantesque silhouette sombre qui s'approchait de lui par derrière.
Serrant encore sa victime entre ses pattes, l'araignée noire disparut à jamais entre les mâchoires du crapaud.
Mais tout dans le jardin était poésie et calme divin.
Une seringue empoisonnée s'enfonça dans la pulpe tendre d'un escargot qui s'acheminait vers le jardin potager.
Il réussit à parcourir encore 2 centimètres avec la tête qui lui tournait. Et puis il s'aperçut que son pied ne lui obéissait plus et il comprit qu'il était perdu.
Bien que sa conscience fût obscurcie, il sentit les mandibules de la larve assaillante qui déchiquetait furieusement des morceaux de sa chair, creusant d'atroces cavernes dans son beau corps gras et élastique dont il était si fier.
Dans la dernière palpitation de son ignominieuse agonie, il eut encore le temps de remarquer, avec une lueur de réconfort, que la larve maudite avait été harponnée par une araignée loup et lacérée en un éclair.
Un peu plus loin, tendre idylle. Avec sa lanterne allumée par intermittence au maximum, une luciole tournait autour de la lumière fixe d'une appétissante petite femelle, languissamment étendue sur une feuille.
Oui ou non ?
Oui ou non ?
Il s'approcha d'elle, tenta une caresse, elle se laissa faire.
L'orgasme de l'amour lui fit oublier à quel point un pré pouvait être infernal une nuit de lune.
Au moment même où il embrassait sa compagne, un scarabée doré d'un seul coup l'éventra irrévocablement, le fendant de bout en bout.
Son petit fanal continuait à palpiter, implorant, oui ou non, que son assaillant l'avait déjà à moitié englouti.
À ce moment-là, il y eut un tumulte sauvage à 1/2 mètre de distance à peine.
Mais tout se régla en quelques secondes.
Quelque chose d'énorme et de doux tomba comme la foudre d'en haut.
Le crapaud sentit le souffle fatal dans son dos. Il chercha à se retourner.
Mais il se balançait déjà dans l'air entre les serres d'un vieux hibou.
En regardant, on ne voyait rien. Tout dans le jardin était poésie et divine tranquillité.
La kermesse de la mort avait commencé au crépuscule.
Maintenant, elle était au paroxysme de la frénésie.
Et elle continuerait jusqu'à l'aube.
Partout, ce n'était que massacre, supplice, tuerie.
Des scalpels défonçaient des crânes.
Des crochets brisaient des jambes.
Fouillaient dans les viscères.
Des tenailles soulevaient les écailles.
Des poinçons s'enfonçaient.
Des dents trituraient.
Des aiguilles inoculaient des poisons et des anesthésiques.
Des filets emprisonnaient.
Des sucs érosifs liquifiaient des esclaves encore vivants.
Depuis, les minuscules habitants des mousses,
les rotifères,
les tardigrades,
les amibes,
les técamibes,
jusqu'aux larves,
aux araignées,
aux scarabées,
aux mille pattes,
oui,
oui,
jusqu'aux orvets,
aux scorpions,
aux crapauds,
aux taupes,
aux hiboux.
L'armée sans fin des assassins des grands chemins se déchaînait dans le carnage,
tuant,
torturant,
déchirant,
éventrant,
dévorant,
comme si, dans une grande ville, chaque nuit, des dizaines et des milliers de malandrins assoiffés de sang et armés jusqu'aux dents sortaient de leurs tanières, pénétraient dans les maisons et égorgeaient les gens pendant leur sommeil.
Là-bas, dans le fond, le caruso des grillons vient de se taire à l'improviste, gobé méchamment par une taupe.
Près de la haie, une petite lampe de la luciole broyée par la dent d'un scarabée s'éteint.
Le chant de l'arénette étouffé par une couleuvre devint un sanglot.
Et le petit papillon ne revient plus battre contre la vide de la fenêtre éclairée. Les ailes douloureusement froissées, il se contorsionne prisonnier dans l'estomac d'une chauve-souris.
Terreur.
Angoisse.
Déchirement.
Agonie.
Mort pour des mille et mille autres créatures de Dieu. Voilà ce qu'est le sommeil nocturne d'un jardin de 30 mètres sur 20.
Et c'est la même chose dans la campagne environnante. Et c'est toujours la même chose au-delà des montagnes, aux reflets vitreux sous la lune, pâle et mystérieuse.
Et dans le monde entier, c'est la même chose. Partout, à peine descend la nuit.
Extermination.
Anéantissement.
Et carnage.
Et quand la nuit se dissipe et que le soleil apparaît, un autre carnage commence, avec d'autres assassins de grand chemin, mais d'une égale férocité.
Il en a toujours été ainsi depuis l'origine des temps, et il en sera de même pendant des siècles, jusqu'à la fin du monde.
Maria s'agite dans son lit, avec des petits grognements incompréhensibles. Et puis de nouveau, elle écarquille les yeux épouvantés.
Carlos, si tu savais quel terrible cauchemar je viens de faire. J'ai rêvé que là dehors, dans le jardin, on était en train d'assassiner quelqu'un.
Allons, tranquillise-toi un peu, ma chérie. Je vais venir me coucher, moi aussi.
Carlos, ne te moque pas de moi. Mais j'ai encore cette étrange sensation, je ne sais pas, moi. C'est comme si dehors, dans le jardin, il se passait quelque chose.
Mais qu'est-ce que tu vas penser, là?
Ne dis pas non, Carlo, je t'en prie. Je voudrais tant que tu donnes un coup d'œil dehors.
Il secoue la tête et sourit. Il se lève, ouvre la fenêtre et regarde.
Le monde repose dans une immense quiétude, inondée par la lumière de la lune. Encore cette sensation d'enchantement, encore cette mystérieuse langueur.
Dors tranquille, mon amour. Il n'y a pas âme qui vive dehors. Je n'ai jamais vu une telle paix.
Le bazar aux nouvelles.
Cuise aux travaux forcés.
Dans ce grand pénitencier qui se trouve à la périphérie de la ville, réservé aux condamnés aux travaux forcés, il y a une règle en apparence humaine, mais en réalité plus que cruelle.
À chacun de nous autres, les condamnés à perpétuité, est accordée l'autorisation de se présenter une seule fois en public et de parler à l'assistance pendant une demi-heure.
Le détenu, tiré de sa cellule, est conduit sur un balcon du bâtiment extérieur, où se trouvent la direction et les bureaux.
Devant lui s'étend la vaste place de la Trinité, et c'est là que se réunit la foule pour écouter.
Si à la fin du discours la foule applaudit, le condamné est libéré.
Cela peut paraître une indulgence exceptionnelle, mais ne l'est pas.
D'abord, la faculté de s'adresser au public n'est accordée qu'une seule fois. Je veux dire, une seule fois dans la vie.
En second lieu, si la foule répond non,
comme c'est presque toujours le cas,
la condamnation se trouve en un certain sens confirmée par le peuple lui-même et pèse encore davantage sur l'âme du détenu, pour qui les jours d'expiation deviennent encore plus sombres et amers après.
Et puis, il y a une autre circonstance qui transforme cet espoir en tourment.
Le prisonnier, en fait, ne sait pas quand cette permission de parler lui sera accordée.
La décision est entre les mains du directeur du pénitencier.
Il peut arriver que l'homme soit conduit sur le balcon à peine une demi-heure après être arrivé à la prison.
Mais il n'est pas exclu qu'on le fasse attendre de longues années.
Quelqu'un qui avait été condamné à la prison à vie très jeune fut conduit au fatidique balcon alors qu'il était un vieillard décrépit et presque incapable de parler.
On ne peut donc se préparer avec le calme nécessaire à une épreuve si difficile.
Certains pensent, peut-être vont-ils m'appeler demain, peut-être ce soir, peut-être dans une heure. C'est le début de l'inquiétude et avec elle, les projets se bousculent, les idées les plus désespérées s'emberlificotent dans un enchevêtrement neurasthénique.
Et il ne sert à rien d'en parler avec les compagnons d'infortune pendant l'heure trop brève de la promenade quotidienne.
Généralement, on n'échange aucune confidence réciproque sur ce qui devrait être le sujet principal des rencontres de notre malheureuse communauté.
Généralement, chacun nourrit l'illusion d'avoir découvert le grand secret, l'argument irrésistible qui déclouera le cœur avare de la foule, et il craint de le révéler aux autres pour ne pas être devancé.
Logique, dans le fond, que les gens qui se sont laissés émouvoir par un raisonnement restent sceptiques et méfiants s'ils l'entendent répéter une seconde fois.
Les expériences de ceux qui ont fait leur discours sans succès pourraient être un élément utile pour savoir comment se régler.
On pourrait au moins écarter les systèmes qu'ils avaient adoptés.
Mais les collés ne parlent pas.
C'est en vain que nous les supplions de nous raconter ce qu'ils ont dit, comment a réagi la foule.
Ils sourient ironiquement et ne soufflent mot.
On dirait qu'ils pensent
« Je resterai toute ma vie en tôle, restez-y donc, vous aussi. Je ne vais pas vous aider d'une aucune façon. »
De vrais salauds.
Toutefois, il est fatal que, malgré tous ces mystères, nous apprenions quelque chose.
Mais dans ces vagues ragots, on ne trouve aucun élément utile.
Il en ressort, par exemple, que dans des discours à la foule, les condamnés reviennent toujours sur deux arguments.
Leur propre innocence et le désespoir de leur famille.
Ce qui est évident.
Mais de quelle façon ont-ils développé ce sujet?
À quel langage ont-ils recouru?
Ont-ils invectivé?
Ont-ils supplié?
Se sont-ils mis à pleurer?
Personne ici ne le sait.
Mais la perspective la plus décourageante est la foule même de nos concitoyens.
Nous sommes des gibiers de potence, je n'en discute pas. Mais ceux qui sont dehors, les hommes et les femmes libres, ne plaisantent pas eux non plus.
À l'annonce qu'un condamné va parler du haut du balcon, ils accourent sur la place, non pas dans l'esprit de quelqu'un qui va devoir exprimer un jugement grave dont dépend l'existence d'un homme, mais uniquement pour s'amuser, comme s'ils allaient à une fête.
Et ne croyez pas que ce public soit composé exclusivement de la lie des bas-fonds.
Il y a aussi de nombreuses personnes d'une moralité exemplaire.
Des fonctionnaires.
Des gens qui ont une profession libérale.
Des ouvriers accompagnés de toute leur famille.
Leur attitude est exempte de commisération et de pitié, même de simple compréhension. Eux aussi sont là pour se divertir.
Et nous déjà, avec nos défroques rayées, à la tête à moitié rasée, nous sommes tout ce qu'on peut imaginer de plus grotesque et de plus abject.
Le malheureux qui apparaît au balcon ne trouve pas devant lui,
comme on pourrait le penser,
un silence respectueux et intimidé, mais des sifflets, des lazzis obscènes, des éclats de rire.
Et alors, qu'est-ce qu'un homme déjà ému et tremblant peut faire devant un parterre semblable?
C'est une entreprise désespérée.
On raconte bien, dans des termes de légende, que dans le passé, il y eut des condamnés qui ont réussi à surmonter l'épreuve.
Mais ce ne sont que des bruits qui courent.
Ce qu'il y a de certain, c'est que depuis 9 ans, c'est-à-dire depuis que je suis emprisonnée, personne ne s'en est tiré avec succès ici.
Une fois par mois environ, depuis cette époque, l'un de nous a été conduit au balcon pour parler.
Mais après, tous ont réintégré leurs cellules. La foule les avait sauvagement sifflés.
Les gardiens viennent de m'annoncer que c'est mon tour.
Il est 2 heures de l'après-midi.
Dans 2 heures, je devrais me présenter devant la foule.
Mais je n'ai pas peur.
Je sais déjà, mot pour mot, ce qu'il convient que je dise.
Je crois bien avoir trouvé la réponse juste au terrible quiz.
J'ai médité longtemps, pendant 9 ans. Alors, vous pensez?
Je ne me fais aucune illusion sur le public. Il ne sera pas mieux disposé que celui qui a écouté mes malheureux compagnons.
On ouvre la porte de la cellule. On me fait traverser tout le pénitencier. Je monte 2 étages. J'entre dans une salle très imposante. Je sors sur le balcon.
Derrière moi, on ferme les volets. Je suis seule devant la foule.
Je n'arrivais pas à tenir les yeux ouverts tant il y avait de lumière.
Et puis, je vis les juges suprêmes.
Il y avait au moins 3000 personnes qui me fixaient avidement.
Et puis, un long sifflement affreusement vulgaire ouvrit la salve infâme.
La vue de mon visage blafard et décharné provoquait une ineffable jouissance à en juger par les rires, les provocations, les moqueries.
Ouh, le gentilhomme!
Attention, voilà l'innocent qui parle!
Fais-nous rire au moins, raconte-nous des histoires!
Hé, il y a ta vieille maman qui t'attend, pas vrai?
Et tes gosses, ça te ferait plaisir de les revoir, tes gosses?
Les mains appuyées à la balustrade, je restais impassible. J'aperçus juste au-dessus du balcon une fille qui me parut très belle. Des 2 mains, Elle écarta le décolleté généreux de sa robe pour que je puisse bien voir.
« Alors, beau gosse, je te plais ?» hurla-t-elle. « Ça ne te dirait bien, hein ?»
Et de ricaner.
Mais moi, j'avais mon plan en tête, le seul qui pouvait encore me sauver.
Je ne me laissais pas déconcentrer. Je tins bon. Et je ne réclamais pas le silence. Je ne bougeais pas le petit doigt.
Et je me rendis compte, avec un soulagement indicible, que mon attitude les étonnait.
Évidemment, les camarades qui m'avaient précédé sur le balcon avaient adopté une autre tactique. Peut-être en réagissant, en élevant la voix, en implorant qu'on les écoute. Et ils avaient ainsi perdu leur chance.
Comme je demeurais immobile et muet, comme une statue, l'ignoble Chavivari s'apaisa peu à peu.
Il y eut encore quelques sifflets, ça et là, isolés. Puis, le silence.
Rien. Je m'imposais un terrible effort sur moi-même et je continuais à me taire.
Finalement, une voix presque courtoise et sincère.
« Mais parle, parle donc, on t'écoute !»
Alors finalement, je me décidai. « Pourquoi devrais-je parler ? » dis-je. « Je suis venu ici parce que c'est mon tour, uniquement pour cela. Je n'ai pas l'intention de vous émouvoir, je ne suis pas innocent. Je n'ai nulle envie de revoir ma famille et je n'ai aucun désir de sortir d'ici. Je vis heureux dans cette prison. »
Un murmure indistinct s'éleva, et puis un cri isolé. « Allez, ne nous raconte pas d'histoire !»«
Je suis plus heureux que vous, dis-je. Je ne peux pas vous révéler comment, mais quand je le veux. J'emprunte un passage secret que personne ne connaît, et de ma cellule, je peux aller dans un jardin d'une très belle propriété. Je ne vous révélerai certes pas non plus laquelle. Il y en a tellement alentour. Là, on me connaît. Et on m'aime bien. Et puis là, il y a aussi...
Je fis une brève pause. Je regardais la foule. Tous ces gens étaient tous désorientés et déçus, comme s'ils voyaient leur poids leur échapper.
Il y a aussi une merveilleuse jeune femme qui m'aime, dis-je.
Ça suffit ! Ça suffit ! Cria quelqu'un exaspéré. Savoir que j'étais heureux devait lui causer une douleur extrême.
Mais laissez-moi tranquille ! M'écriai-je. « Je vous en prie, braves gens, ayez pitié de moi, ne m'enlevez pas d'ici, sifflez ! Je vous en supplie, sifflez !»
Un frémissement passa sur la multitude, un souffle de haine envers moi. Je le sentis distinctement. Le simple fait de penser que j'avais peut-être dit la vérité, que j'étais vraiment bien content là où j'étais, les angoissait. Mais ils hésitaient encore. Je me penchai sur le parapet, faisant vibrer pathétiquement ma voix.
« Ne me dites pas non, vous qui avez bon cœur, m'écriai-je. Qu'est-ce que ça vous coûte ? Allons, mes bons monsieur, sifflez donc ce pauvre prisonnier heureux !»
Une voix chargée de méchanceté passa sur la foule.
« Ah non, hein ! Ça serait trop facile !»
Et puis, un applaudissement.
Un autre.
10.
100.
Un immense applaudissement monta avec une force croissante.
« Je les avais eus, les salauds !» Derrière moi, on ouvrait les volets.
« Allez, va !» me dit-on. « Tu es libre. »
Le bazar aux nouvelles. Petite histoire, poème.
C'est-à-dire ?
Conte, récit.
C'est à ouïr.
Le bazar aux nouvelles. Des mots d'auteur. Des voix d'amateur. Des oreilles d'auditeur. Soyez tout ouïe, non ?
Non.